Aujourd'hui, ce que l'on vous propose, c'est de prendre un moment sur repenser comment on peut repenser nos processus de recrutement par rapport à ce qui est en train de se passer, par rapport à cette fameuse guerre de talents. Repenser, pour nous, ça voudra dire deux choses, hein. D'abord, penser qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui sur ces process de recrutement. Et puis, est-ce que ça veut dire penser différemment? Et pour ça, j'ai le plaisir d'être accompagné par Antonin Senet, qui est le directeur général de Curieux. Je vais le dire avec mes mots, c'est la start-up du groupe sur le digital learning. Mais je te laisserai promis te présenter, tu le feras mieux que moi. Et je serai également accompagné par Laurent Mars, qui est le
Bonjour.
directeur du secteur industrie. Et qui jouera le rôle de l'animateur s'il en est d'accord. Bon, je vous ai mis simplement sur le slide suivant voilà, la dernière une des échos. Il y a encore la une du Monde hier qui parle de ça. C'est vraiment beaucoup dans les journaux actuellement, hein. Je pense qu'on n'a pas de problème de carnet de commandes, hein, dans vos entreprises, dans nos entreprises. La principale difficulté, c'est de recruter. Il y a un chiffre qui est étonnant, hein, les entreprises ont constaté dans 69% des cas des difficultés de recruter sur les 3 premiers mois de 2021. C'est 5 points de plus que sur le dernier trimestre 2021. Donc c'est très significatif, hein, c'est une hausse très importante. Et deuxième effet, j'allais dire qui se coule, c'est que la majorité des postes sont ouverts depuis plus de 3 mois, avec évidemment des exceptions. Hein, et pour certains, malheureusement, on est sur des process encore beaucoup plus longs. Mais ce que l'on constate, nous, à notre niveau, c'est qu'en l'espace de quelques mois, on a perdu 2 à 3 semaines sur des process de recrutement. Ce que l'on constate également, c'est évidemment un paradoxe. Hein, on a une économie qui baisse, hein, dû à la conjoncture, à la guerre évidemment en Ukraine, mais en parallèle, la tension sur le marché de l'emploi ne faiblit pas et au contraire, elle augmente. Donc, premier message, hein, c'est que les offres d'emploi ne semblent plus suffire. Je n'ai pas de ratio, je vous dirais simplement que chez Axio, ça fait bien longtemps qu'on a plus grand espoir sur ces annonces, malheureusement. Quelques messages, hein. On a une profusion de job boards. Souvent, les offres sont mal rédigées, elles sont dupliquées. On voit beaucoup de copier-coller, hein, dans ces offres. On voit beaucoup de choses qui sont des offres encore trop rédigées de façon traditionnelle. Qui nous sommes en tant qu'entreprise? Qu'est-ce que nous voulons en termes de compétences? Et ensuite, parlez-moi de vous. Là, c'est vraiment une vision. Enfin, ces annonces sont rédigées de la même façon depuis des années. Et on sent vraiment que le retour sur investissement est de plus en plus faible. Les candidats nous renvoient un message, pardon, sur le fait que les espaces carrières, les sites carrières, ça ne va pas vous faire plaisir, mais sont de plus en plus complexes, malgré tous les efforts qui ont été mis en place sur ces dernières années. Je crois que nos candidats, malheureusement, ils n'ont plus envie d'aller chercher des opportunités, ils n'ont plus envie d'aller passer du temps sur les sites d'emploi, sur les sites carrières. C'est cette génération, on va l'appeler comme ça, Amazon, Netflix, eux souhaitent que les annonces arrivent directement vers eux. Donc il y a un changement de paradigme et ce n'est pas parce qu'on a voilà, rédigé une annonce que voilà, tout va bien se passer. Les attentes de ces candidats ont bien changé depuis quelques années. Donc ça va nous obliger à faire du marketing RH et traiter le candidat comme un véritable client et on verra ce que peuvent mettre en place des sociétés comme Curieux avec lesquelles on travaille aujourd'hui. Maintenant, je voudrais qu'on fasse un zoom sur ce fameux process de recrutement. Et là, donc c'est l'objectif, hein, de ce club talent du jour, c'est déjà, parlons des attentes des candidats. Qu'est-ce qu'ils veulent, nos candidats? On a réuni certains encore hier autour d'une table. Ils nous renvoient tous le même message, de la transparence. On veut de la transparence. Alors, j'ai mis y compris la notion de salaire. Très concrètement, J'ai un confrère qui a fait une étude, 96% des candidats souhaitent avoir des notions de salaire dans les annonces. La réalité, c'est que seulement un tiers des annonces présentent des notions de salaire. Et très concrètement, nous perdons des candidats quand nous ne mettons pas le salaire. Ce n'est pas toujours possible de le faire, mais quand on le fait, on peut voir le sujet différemment, on va gagner des candidats supplémentaires. La transparence dans un process de recrutement, ça va passer aussi par une communication plus claire et plus directe sur combien d'étapes vous allez avoir dans votre process de recrutement. Pourquoi pas leur donner, en tout cas c'est quelque chose que l'on fait de plus en plus, hein, pourquoi pas leur donner le classement dans cette shortlist quand on vous présente des candidats, ben, aujourd'hui on leur dit exactement qu'ils sont deuxième, troisième, quatrième et pourquoi ils ont ce classement dans ce process de recrutement. C'est vraiment ce que souhaitent les candidats, c'est qu'on soit le plus transparent avec eux. La deuxième raison, c'est évidemment de la réactivité. C'est pas forcément de la vitesse, parce que quand ça va trop vite, ça crée un doute, ça crée de la suspicion pour les candidats. Mais ils veulent de la réactivité, ils veulent qu'on soit au contact, qu'on leur donne de l'information et qu'on les laisse pas dans la nature. C'est pas grave si le process dure 3 mois, mais il faut qu'on soit en capacité de leur dire là où ils en sont exactement. Le troisième point, c'est comprendre leur futur environnement de travail. Alors, depuis 2 ans, ça a été beaucoup compliqué. Certains de nos clients n'ont pas encore modifié leur process, ne sont pas revenus sur des entretiens en physique. Mais on sent que c'est véritablement une très grande attente de nos candidats. C'est de bien comprendre là où ils vont travailler, leur futur environnement de travail, avec qui ils vont travailler. Donc, de faire comme ça. Tout simplement, l'entretien en face à face. C'est important de refaire venir cette étape. On préconise à nos clients de plus en plus d'avoir la possibilité de permettre au candidat de voir potentiellement la personne qu'il remplace ou un de ses futurs collègues. C'est des choses qui sont très appréciées parce que on va sortir de la sélection pure, on va pouvoir avoir un dialogue beaucoup plus ouvert avec ces personnes. C'est ce que cherchent à avoir nos candidats. L'avant-dernier point, enfin le dernier point, hein, c'est la cohérence. Évidemment, si je le prends par la négative, dès qu'il y a une dissonance, des propos qui ne sont pas alignés, un objectif qui n'est pas partagé, là on a des candidats qui peuvent malheureusement fuir et qui nous renvoient ça. Donc, c'est extrêmement important d'être alignés tous sur quelles sont les attentes qu'on a sur notre cahier des charges vis-à-vis du candidat, qu'est-ce qu'on va attendre de lui, quelles sont les étapes de sélection sur ce candidat. Donc, une grande cohérence qui est attendue. Et puis, j'ai envie de dire, le message général, c'est que nos candidats, ils n'ont plus tellement envie d'être sélectionnés, mais ils ont envie maintenant d'être séduits. Voilà. De plus enchaîner les tests, les entretiens, etc., de façon mécanique, mais ça soit plutôt une expérience plus intéressante, plus valorisante pour eux. Et donc, on va parler de plus en plus d'expérience candidat. On met en place chez Axio un système de notation. On veut être noté par les candidats qui passent dans nos mains, j'allais dire, sur nos process de recrutement, comment ils ont vécu l'expérience de recrutement avec nous.
Fred, je me permets de rajouter une chose avant de parler de rentrer dans le process de recrutement sur la notion de séduction. Je ne peux qu'approuver. En revanche, nous observons chez Axio depuis peut-être un an que c'est une séduction qui doit être basée sur du concret, sur du réel et non pas sur une posture. Je m'explique. Et ça se traduit d'ailleurs dans le classement de l'attractivité des entreprises pour les cadres qui sortent d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs. Ce classement a été bouleversé. On voit apparaître des sociétés qui, comme la SNCF, je crois que nous avons un ou une représentante de la SNCF. Sociétés comme la SNCF qui malheureusement n'appartenait pas à ce classement et qui par exemple devient une société véritablement attractive pour des ingénieurs, qui doit se placer d'ailleurs au 12e rang de mémoire. A contrario, On ressent aussi chez des gens comme Total, qui était l'entreprise incontournable des ingénieurs. Tout le monde voulait aller chez Total. Aujourd'hui, Total doit se différencier encore plus, doit faire énormément d'efforts pour attirer les meilleurs talents, parce qu'on va leur demander une véritable probité des valeurs. On va attendre les entreprises sur des notions de responsive, de RSE, et non plus sur un storytelling.
L'idée, c'est finalement comment on va donner envie à une personne de rejoindre une structure, comment on va finalement venir valoriser une identité, une culture d'entreprise, et tout ça dans une économie, entre guillemets, de l'attention, où le digital est de fait de plus en plus présent. Juste un chiffre comme ça, là, en Chine, la génération Z, on les dit touzou, c'est-à-dire ils regardent toujours le sol, c'est parce qu'ils ont toujours le nez penché sur leur téléphone, parce que globalement, ils passent 10 heures par jour sur un smartphone. Même vous, nous, on touche en moyenne 2000 fois notre téléphone par jour. On se rend bien compte que c'est forcément des moyens et des leviers de communication qui sont extrêmement importants et que quand on veut recruter, on est obligé de passer par ces canaux pour aller finalement attirer, donner envie, activer finalement ce qu'on appelle le circuit de récompense et les mécaniques de mystère de notre cerveau, c'est l'envie de cliquer, d'aller plus loin. Donc par rapport à ça, et je vais m'appuyer sur un exemple concret qu'on a réalisé pour la branche du recyclage, FEDEREC, qui nous avait sollicité, pourquoi? Pour venir finalement attirer un public, une cible assez jeune, sur un secteur qui est plutôt porteur, tout ce qui tourne, enfin, du recyclage et de l'économie circulaire, et qui en même temps ne voulait pas avoir une approche traditionnelle avec des chiffres, pourquoi il faut y aller, etc., et voir un discours moralisateur en disant l'économie circulaire, c'est bien. Ce qui serait l'inverse du ton généralement que les publicitaires ont quand ils s'adressent à ce type de cible. Donc, on a structuré finalement la démarche en deux temps. On a créé ce qui s'appelle des snack content, donc des contenus hameçons qui ont une durée assez courte. Quel est le but de ces contenus? C'est d'attirer le regard sur les réseaux sociaux. Notamment là, c'était pas trop sur LinkedIn justement, on est allé directement sur les réseaux utilisés au quotidien par cette cible, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Snapchat, et pour justement leur donner envie, cliquer et ensuite aller sur des descriptifs plus précis des offres. Alors je parlais tout à l'heure science comportementale, on est là, c'est-à-dire c'est avoir une vidéo qui va attirer le regard, qui va interpeller pour que la personne clique. Et comme elle a cliqué, on crée un lead et elle va être intéressée. Et à partir du moment où elle est intéressée, on a de la disponibilité. Elle va nous accorder son temps. Ce qui n'est pas le cas si on met une vidéo tout de suite qui dure 5 minutes au démarrage, elle ne va pas la regarder. Là, on l'a intéressée, on peut lui parler. Comment on va lui parler? Deux autres types de vidéos sur lesquelles on a réfléchi avec Laurent et Frédéric, c'est ce qui nous intéresse quand on va rejoindre une boîte, c'est un, le poste, et donc de s'adresser à des opérationnels qui ont le même métier et qui vont pouvoir dire en gros ce qui leur plaît dans le même poste que moi potentiellement je vais occuper. Donc entre guillemets, on parle d'égal à égal, entre guillemets si je puis dire, c'est pas vraiment le bon terme, mais c'est ça la mécanique. Et derrière, également une vidéo, plutôt une personne de la direction ou un top manager qui va venir présenter finalement la culture, les valeurs, l'identité du groupe, tout ce qui tourne par exemple autour de la RSE et qui sont aussi aujourd'hui également des dimensions qui sont extrêmement importantes dans le cadre du recrutement. Donc, on essaye de couvrir avec ces deux typologies de vidéos, enfin, ces trois typologies de vidéos. Les premières, les contenus hameçons, créer de l'envie, on clique, on a de la disponibilité, on peut s'adresser à la personne. Et là, on a deux autres typologies de vidéos, des vidéos d'un opérationnel ou de plusieurs opérationnels. Hein, ce n'est pas juste un opérationnel qui va venir s'adresser à la personne. Et également, des vidéos d'une personne de la direction. Alors, comment ces vidéos font important. Ouais.
Comment tu mesures les retours aujourd'hui, Antonin? On est capable de mesurer l'impact?
Oui. Ça alors, je termine juste la petite ce que je t'amenais et je réponds à ta question. C'est derrière, il ne s'agit pas de faire une vidéo comme avec un simple interview d'une personne qui va expliquer c'est ça les valeurs de l'entreprise, etc. Il faut que ce soit des vidéos très ancrées, encore une fois, dans les usages du web, inspirées de Combini, des formats bruts. Et là, typiquement, pour ce client-là, on avait proposé deux concepts. avec un univers graphique. Le premier, c'est Catch Me If You Can, enfin inspiré du film Catch Me If You Can avec Recrute-moi si tu peux. Et on est dans une inversion de logique où on est effectivement à l'entreprise de séduire le candidat. Et la deuxième proposition, qui n'a pas été retenue, était celle un peu du en mode Tinder. On like, on aime, on n'aime pas. Et on avançait de cette manière-là avec des questions, bah, concrètement, vous me proposez quoi? Pourquoi je viendrai chez vous? On est sur des vidéos très courtes, 2 minutes 30 maximum, parce que sinon, encore une fois, on est sur des données. Et c'est ça qui est, ça fait le lien avec ta question, Laurent. On sait qu'au bout de 2 minutes 30, les personnes ils décrochent d'une vidéo. L'avantage de tout ce qui est digital, c'est que derrière, on peut tracer, on peut savoir d'où viennent les candidatures, etc. C'est-à-dire qu'une vidéo, on va pouvoir voir son taux d'ouverture, si elle a été appréciée, si elle a été regardée jusqu'au bout. On va pouvoir voir le nombre de vraies directions qu'elle a adressées sur une plateforme donnée, sur une plateforme de recrutement, sur une annonce. On va bien vraiment pouvoir suivre ces statistiques et ces données pour voir si on a tapé juste ou si on a tapé à côté. Parce qu'une vidéo qui n'est pas regardée, ou si on va dire elle est regardée que jusqu'au bout de 10 secondes, c'est qu'on a mal visé, on a mal ciblé. Mais sinon, quand on a bien travaillé en amont, et généralement, c'est le cas. De fait, on va pouvoir voir le nombre de personnes qui ont cliqué et ce qu'on appelle la création de lead, en fait.
Juste pour compléter, donc, nous, dans notre activité d'approche directe, ça nous permet d'augmenter notre taux de conversion. C'est-à-dire que dans ce moment de séduction, ce moment où on envoie des premières... ligne entre guillemets, hein, des premiers messages, ça permet d'avoir des taux de retour, des taux de conversion pour ceux qui utilisent LinkedIn qui sont bien meilleurs parce que tout de suite on donne à voir. Je crois que nos candidats, ils ont envie de assez rapidement, pas qu'on leur raconte, pas qu'on leur survende quoi que ce soit, une opportunité, mais qu'on leur montre à voir un environnement, des valeurs, du concret. Et ça, c'est un atout vraiment très intéressant de recrutement, plutôt de cadre supérieur, cadre dirigeant, où on voyait peu hein, ces outils-là arriver. Mais je crois que même sur nos segments de recrutement, sur cette cible-là, ça va nous aider à augmenter notre taux de conversion.
Sur après, quand voilà, il y a effectivement la dimension de recrutement, mais c'est également... C'est toute la logique de parcours d'intégration qui est importante. On se rend compte avec les quelques chiffres hein, qu'on a cités, je ne vais pas redire, on a un marché de l'emploi qui est sous tension, et des jeunes générations qui changent bien plus souvent de travail que les générations précédentes. Donc là, c'est par exemple 20% des actifs ont changé volontairement d'employeur en 2020. On se rend compte également que les transitions, c'est le chiffre du dessous, de 27 à 46% des cadres ayant changé de fonction sont considérés comme un échec ou une déception 2 ans plus tard. Donc, c'est important d'avoir cette logique, finalement, dans le temps, dans un temps relativement long. Il faut accompagner au-delà du recrutement, donner envie de rester, fidéliser d'une certaine manière, puisqu'on se rend bien compte que, un, c'est difficile de recruter, mais quand le recrutement se passe mal, bah forcément, c'est un véritable coût pour l'entreprise, financier, mais également en termes de production, au niveau d'une équipe. Donc, ce qui est très important, c'est vraiment penser un peu à un schéma global il faut recruter, intégrer avec qualité et fidéliser finalement les nouveaux entrants.
Ouais, c'est un bon point. C'est, encore une fois, c'est de démontrer quel va être son futur environnement de travail et voilà, de mettre en lumière finalement sa politique QVT, RSE lors de ces process de recrutement. C'est plus tout à fait... Je ne sais pas si ça sera la conclusion, mais on n'est plus tout à fait dans une sélection pure et dure de candidats qui sont en face de nous. Mais voilà, on est obligé par la force des choses, et je trouve que c'est d'ailleurs pas mal, d'avoir une relation beaucoup plus équilibrée dans laquelle on va montrer qui on est réellement. Et voilà, on va donner envie par cette transparence, par cette... ces process de recrutement qui évoluent. Et quelques anecdotes, hein. Nos candidats, de plus en plus, nous demandent à rallonger un process de recrutement. Est-ce que je peux voir cette personne? Et ça montre qu'il y a peut-être un doute. Ils veulent voir plus de monde. Ils veulent aller sur place. Et certains, n'hésitent pas à prolonger leur période d'essai. C'est quelque chose qu'on avait là non plus jamais vu. Voilà, ça fait partie des règles, des nouvelles règles du jeu. Les candidats veulent en voir plus pendant le process, ils veulent plus de transparence, et s'ils ne sont pas tout à fait convaincus, ben, ils n'hésitent pas à prolonger une période d'essai. Début juillet, on va vous convier sur un nouveau club talent. Cette fois-ci, alors Antonin, tu as parlé de sociologie, tu as parlé d'un certain nombre de thématiques en dehors du champ du recrutement. On va faire intervenir une psychologue plutôt connue que l'on voit régulièrement à la télévision, hyper dynamique, et pour avoir son regard sur nos politiques de talent management. Qu'est-ce qu'on pense un philosophe? Comment il interagit avec tout ce qu'on va lui raconter? Moi, je suis très, très impatient qu'on puisse échanger avec cette personne. Je ne vous donne pas son nom, parce qu'on doit se caler, et puis je fais un peu de teasing pour être sûr de vous avoir le plus nombreux possible la prochaine fois. Un grand merci à vous pour ce temps d'échange. Voilà, on reste à votre disposition si vous avez d'autres questions.